Bon, 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 on va pas se mentir, c'est difficile aujourd'hui d'échapper à la multiplication des bruits de guerre, et cette fois-ci, à nos portes, ici en Europe, via un prolongement ou un débordement, je ne sais pas comment dire, potentiel de la guerre en Ukraine. En effet, pour la première fois, à mon avis, mais peut-être qu'avec les faits et contextes, Benoît va me contredire, depuis des décennies, les discours, les décisions sont en effet de plus en plus explicites. À moins de faire l'Autriche, je ne vais pas la faire maintenant devant vous, il y a sans doute une charge mentale anxiogène pour tout le monde, et notamment ici autour du plateau. Alors, je pense que nous, les croyants, nous sommes touchés comme les autres, voilà. Est-ce que pour autant, nous devrions flipper ? Voilà. Et sinon, si on flipperait ? J'ai dit on se flipperait ?
Oui.
Mais si c'est une grosse erreur de français.
Si on disait si on ne flippait
voilà,
pas, par exemple.
Et si on flippait, voilà, ou si on flippait moins, effectivement, quels seraient nos atouts ou nos bottes secrètes ? Donc, du coup, il y a trois options sur la table pour nous et pour vous qui nous écoutez, qui nous regardez. A, il n'y a pas matière à flipper. Arrêtez de contribuer avec votre émission à cette atmosphère effectivement anxiogène. B, effectivement, c'est flippant, mais je ne vois pas du tout en quoi il y aurait une différence entre un croyant et un non-croyant. C, sans doute, c'est flippant, mais encore une fois, le croyant, il a des secrets, des bottes secrètes.
On peut rajouter un
voilà.
D.
Non, il n'y a pas le D. Le D, je rappelle, c'est l'option quand on veut virer quelqu'un du plateau.
D'accord.
C'est toujours une option qui est ouverte. Voilà, ça m'arrangerait si ce n'était pas moi. Premier tour de table flash, et on va laisser la confession à Anita. Benoît, le sujet, il a atterri dans ta boîte aux lettres. Ça t'a fait quoi ? Ça te fait quoi ce soir ?
Le sujet, en même temps que les dernières annonces qu'il y a eu, au début, quand c'est sorti, j'ai flippé grave. Parce que quand même, si l'Europe est l'ennemi de la Russie, moi qui habite vraiment pas loin du Parlement, je suis mal barré.
Pourquoi ? Le Parlement, c'est potentiellement une cible ?
Un truc comme ça.
Ah, le
ça,
Parlement
ça fait
européen ?
Très, très peur.
D'accord.
Bon, j'ai réfléchi un peu. Au bout de 20 secondes, je me suis calmé.
D'accord. Et tu sais quelle est la position que tu vas tenir aujourd'hui ?
Oui, mais je regarde le suspense.
D'accord. Suspense intolérable. Une fois n'est pas coutume, moi, je vais être plus solennel que d'habitude. J'avoue que parmi les différents fléaux, malheurs qui peuvent frapper notre terre, la guerre est celui qui me fait le plus peur. Voilà. Et je pense que le choix du sujet, je ne l'ai pas fait de gaieté de cœur, mais peut-être que c'est une manière, un catharsis, voilà, une manière d'expurger. Voilà. En tout cas, pour moi, par rapport aux trois options, c'est clairement C, et je défendrai Morticus, comme quoi, nous, en tant que croyants, nous devrions avoir des atouts capitaux. C'est tout de suite la confession avec Anita.
Alors, je sens que ma confession va plaire une fois de plus.
Ah, ah merde, c'est ironique.
1965. Dans ma cour d'école primaire, j'entends parler de bruit de guerre.
Ah.
Les États-Unis viennent d'engager massivement leurs forces contre le Nord-Vietnam. Et les plus grands, ceux qui ont 12 ans à peu près, qui en savent en fait aussi peu que moi, disent que c'est peut-être la fin du monde. 1990, je suis animatrice dans un camp de jeunes, donc complètement isolée de l'agitation du monde, mais des bruits de guerre nous parviennent. C'est la guerre du Golfe qui est en train de commencer, qui va opposer l'Irak à une coalition de 35 États dirigés par les États-Unis. Une vague inquiétude nous parcourt car nous ne savons pas exactement ce qu'il en est. Et puis une réflexion s'engage. N'avons-nous pas été chanceux jusqu'à présent ? À l'opposé de nos parents et grands-parents, notre génération n'a pas encore connu la guerre, du moins sur le territoire français. Février 2022. Des bruits de guerre nous parviennent. Les troupes russes commencent à envahir le territoire ukrainien. Nous nous inquiétons, nous compatissons, nous accueillons les Ukrainiens. La guerre est sur le territoire européen, oui, mais il y a encore 2000 kilomètres au moins qui nous séparent. Début 2024, les bruits de guerre se rapprochent. Un débordement serait-il possible de la guerre d'Ukraine vers chez nous ? Alors comme beaucoup, je suis partagée. D'un côté, je pense que nous sommes un peu dans l'esbrouf. Un peu, vous savez, quand le combat de Goliath contre David, c'est-à-dire faire peur par la menace. De l'autre, j'ai des vieux flashs d'histoire qui me reviennent et je me souviens du déclenchement de la Première Guerre mondiale, l'assassinat d'un archiduc et le jeu des alliances qui engage des dizaines de nations dans la guerre. Alors, bon, je veux croire à la paix. Alors non, pas à la paix pour la paix, parce que je ne pense pas que l'être humain soit très doué pour cela. Mais je me dis, je peux peut-être compter sur l'équilibre des forces pour toutes sortes d'intérêts économiques, géopolitiques, géostratégiques. Mais peut-on compter sur les êtres humains ? Alors, c'est là où je reviens en fait à ma confession. Je le confesse. Je me tourne vers la Bible Et Jésus dit, vous savez, un jour, il y aura des guerres et des bruits de guerre. Et puis, il rajoute certaines choses après. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en discuter. Alors, moi, je le confesse, c'est en Dieu, maintenant que je décide de placer ma confiance, parce que, sincèrement, moi, je ne sais pas où on va.
Anita. Alors, on vous a préparé trois questions. Attention, c'est de la plus facile à la plus difficile. La première question, c'est question facile pour 1000 euros. Ah non, ça, c'est autre chose. D'abord, quel éventail de réactions on peut trouver chez nous, dans notre audience, globalement sur le continent européen, face à ces bruits de guerre ?
On pourrait faire des
Et on pourrait faire l'effet contexte d'abord, voilà. C'est incroyable, hein, aujourd'hui. Hein.
Alors, eh ben, écoute, moi, j'ai fait une sélection.
Personnelle.
Exactement. En fait, dans cette ambiance d'anxiété, je vais lister différents faits et contextes de l'actualité récente qui peuvent nous pousser à monter le niveau de stress de cette charge mentale
oui,
anxiogène.
S'il te plaît.
Je t'en prie.
Monte
je te sens
niveau.
Serein. Du coup, je vais t'augmenter ton trouillomètre. Donc déjà, comme l'a dit Anita, en février 2022, quand Vladimir Poutine a annoncé qu'il allait envahir l'Ukraine, mais qu'il fallait le laisser faire parce qu'il avait des armes nucléaires supersoniques qu'il utiliserait en représailles. Alors, il ne l'a pas dit comme ça, mais c'était un peu cette idée. Eh ben, il a remis le couvert le 29 février 2024. Le président russe, lors de son discours annuel à la Nation, a annoncé que la Russie possède des armes capables d'atteindre les territoires des pays occidentaux et que tout ce qu'ils inventent, les pays occidentaux, est une menace réelle de conflit avec l'utilisation de l'arme nucléaire. Ensuite, on a Emmanuel Macron qui dit que rien ne doit être exclu pour que la Russie ne gagne pas cette guerre et il laisse ouverte une possibilité d'envoi de troupes occidentales en Ukraine. Ensuite, en Allemagne, il y a des fuites. En effet, il y a un document officiel de l'armée allemande qui montre un scénario d'un conflit direct entre la Russie et l'OTAN qui pourrait avoir lieu dès 2025. Donc je vous laisse regarder les ressources en dessous. On y trouve le déroulé du scénario et ouais, j'avoue, ça fait peur. Si on va un petit peu plus au nord, ben, il y a deux pays qui ont été neutres dans les guerres des deux derniers siècles, la Finlande et la Suède, qui sont en train de rejoindre l'OTAN. Le gouvernement suédois a même annoncé qu'il fallait se préparer à une guerre contre la Russie. Le ministre de la Défense de la Suède a annoncé, je cite, « Chacun, individuellement, doit se préparer mentalement. »
Les désirs de la chair.
Ah non, c'était une autre.
Celui-là. Plus nous serons nombreux à y avoir réfléchi et à nous être préparés, plus notre société sera forte. Puis si on considère les différents conflits dans lesquels les Américains ont des intérêts, l'Ukraine, Israël, Taïwan, bah, ils ne pourront pas être sur tous les fronts pour l'éternité. À cela, on peut ajouter le risque lié à une sortie de l'OTAN des États-Unis dans l'éventualité où Trump gagne les élections de la fin d'année, la conséquence étant que les Américains ne seront plus là pour protéger l'Europe. Et alors, il en est où ton trouillomètre ?
C'est dégueulasse.
Mais chers amis, vous vous rendez compte à quoi sert notre émission ?
J'ai eu l'honnêteté de dire que c'est vraiment flippant comme sujet pour moi. Alors, quel éventail de réactions on peut retrouver ? Parmi notre audience, parmi le plateau. Qu'est-ce que vous avez noté ? Ensuite, on verra. Deuxième question, j'avais dit la plus facile et la plus difficile. Comment devrait se positionner le chrétien par rapport à cet éventail ? Ok ? Voilà. Ok ? Quel que soit le trouillomètre. Et enfin, après un jingle salutaire, eh bien, nous verrons quels sont les arguments effectivement bibliques, comme quoi le chrétien est censé avoir des atouts, des armes, sans jeu de mots, particulières. Ah, c'est parti. Vous avez noté quoi comme éventail de réaction ? Qu'est-ce qu'il peut y avoir ?
Bah, déjà, le déni.
Le déni, c'est-à-dire circuler, il n'y a rien à voir,
oui,
mais arrêter.
Mais c'est ce que font même d'ailleurs, par exemple, que ce
Anita.
Soit la Russie ou la France.
Okay.
La Russie qui déclare, ah, non, vous méprenez sur nos intentions. Et la France qui dit, non, vous... Bon, voilà, le déni. On peut dire, rien n'arrive, rien n'existe.
Ok, le déni.
Moi, je dirais à l'opposé, vite, il faut se barricader. Prenez des radios sur batterie, achetez du PQ. Très important, en cas de crise.
Ouais.
Voilà, un peu la folie.
Pendant la Covid, il fallait qu'on achète aussi des PQ.
Oui,
je me souviens.
C'est
échange Porsche Panamera contre PQ. Eh mais on rigole, mais sérieux le sujet, non. Ok, donc un côté un petit peu alarmiste.
Alarmiste,
c'est ça
et je dirais qu'il perd un peu de raison.
Qui perd raison. Moi, je me suis noté, c'est peut-être une variante du déni, peut-être que vous êtes là, un petit peu là-dedans, c'est l'autruche. C'est-à-dire, je ne veux pas m'intéresser, j'arrête de regarder les infos, ça me fait flipper, je vis au jour le jour. Donc l'autruche, voilà. Okay.
Il y a la préparation un peu à la guerre, c'est un peu dans la suite de ce que disait Benoît, et la préparation soit de certains États, par exemple, qui sont en train de revoir leur budget militaire.
Ouais.
On a quand même la Pologne, on a la Suède, la France qui annonce aussi une augmentation.
Ou
il y a la préparation même des populations, ce que tu as évoqué au niveau du côté de la Suède, où ils sont en train de oui, de se mettre un peu en mobilisation.
En ordre de bataille, toujours sans jeu de mots.
Voilà, des civils, pour, ne serait-ce que pour les questions de sécurité, ouais, de soins. Enfin voilà, il y a quelque chose qui est en train de se passer à cet endroit-là.
Je me suis noté aussi, il peut y avoir une partie de notre audience qui peut être fataliste, mais fataliste avec deux options, fataliste, lâcher prise, fataliste, anxieux. Donc fataliste, lâcher prise, c'est un petit peu ce que je disais, je vis au jour le jour, voilà, ce qui devra arriver, ben, arrivera. Voilà, et le fataliste anxieux qui rumine et peut-être même qui se nourrit dans un, peut-être une espèce de désir un peu morbide. Et je m'étais noté également dans cet éventail les prophètes de malheur. Mais j'arrive pas à faire le même ton que toi. Hein.
Mais c'est une expérience.
Je reconnais. Franchement, pas de comparaison. Mais le prophète de malheur est qui entretient pour lui ou pour son entourage. De toute façon, on va à la cata. Le côté un peu collapsologue, voilà.
Bah dans les collapsologues, une vision peut-être un peu complotiste. Ouais. En fait, tout ça, c'est fait pour pouvoir relancer l'économie de la France et de l'Europe, parce qu'on sait très bien qu'il nous manque quelques petits points du PIB. Et bah, quoi de mieux que de réarmer un pays pour relancer des points de PIB. Faire des réserves de nourriture, bah, ça permet aussi de réduire un petit peu les livrets d'épargne qui sont chargés récemment. Et en fait, ils veulent nous faire vider nos livrets d'épargne. Et puis ensuite, bah, c'est aussi pour mettre de la peur dans la population, pour asservir les masses.
Il a le ton et maintenant, il a le geste. Il fait de plus en plus pleurs. Je ne sais pas si c'est la guerre qui fait flipper, mais Benoît, réagissez, il commence vraiment à faire flipper. Hein. Voilà.
Et puis, il y a ceux qui vont avec, je dirais, des arguments un peu stratégiques, rationalistes, qui vont compter le nombre de chars qui est produit d'un côté, les effectifs qui peuvent être recrutés du côté de la Russie ou du côté de l'Ukraine, le positionnement des États-Unis. Enfin, voilà, qui se disent, bon, essayons un peu comme une équation, un multiple inconnu, tu vois, voilà.
Ok, d'accord, très bien. Bon, je crois qu'on a fait un inventaire des différentes réactions dans lesquelles vous pouvez vous positionner, vous qui nous regardez, qui nous écoutez. Deuxième question, qu'on ne va pas développer, comment parmi cet éventail devrait se positionner un chrétien, d'après vous? Et je rappelle que notre objectif, c'est que vous puissiez vous faire votre propre opinion, et donc vous puissiez répondre vous-même à cette question. Un chrétien, est-ce qu'on est censé le retrouver pas du tout ici, carrément là, parmi les réactions, un peu des deux, des trois, des quatre, Benoît?
Déjà, j'expliciterai comment devrait se positionner le chrétien sur le fait que, alors, c'est pas parce qu'on est chrétien qu'on va réussir à tenir une position, mais c'est parce qu'on a une relation à Dieu et qu'il permet de changer notre vision des choses et de la vie, qu'on arrive à avoir une position différente.
C'était juste pour... Ok, donc par rapport à notre rang, est-ce qu'on doit flipper? Est-ce que le chrétien flippe comme tout le monde? Tu dis qu'en fait,
Le chrétien
dans sa relation
a
avec,
des atouts.
Il a des atouts du fait de sa relation avec Dieu.
Exactement.
D'accord, on va le développer tout à l'heure. Anita?
Ben, le chrétien peut être sur l'une ou l'autre position telle qu'on les a évoquées.
Donc on peut trouver des chrétiens fatalistes, autruches, prophètes de malheur, complotistes, rationalistes.
C'est ça, on peut trouver sur toute cette palette.
D'accord.
Après, moi, ce que je trouve d'autres choses dans la Bible, puisque Jésus a parlé...
Yes.
Voilà. Jésus lui-même...
Quand même.
Matthieu
24. Voilà, ça s'anime, enfin. Non, mais parce que là...
Bon, Matthieu 24, mais qu'on retrouve aussi dans Luc et dans Marc, où Jésus lui-même...
Ah non, je voulais le citer après, moi.
Alors, je retire le Marc et Luc, je dis juste ce que Jésus a dit, je ne vous dis pas où c'est. Jésus a dit, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Et un peu plus loin, il ajoute, ne vous alarmez pas.
Okay.
Ne vous alarmez pas.
Donc, tu es en train de me dire que normalement, un chrétien est censé avoir des atouts pour ne pas s'alarmer, donc d'un peu moins flipper.
Ben, je pense que oui, intérieurement, dans sa relation, ce que disait Benoît, à Jésus, et en tenant compte de ce que Jésus lui-même disait, ne vous alarmez pas. Donc ça veut dire quelque part, il dit, ça va venir, et il sait très bien ce qu'une guerre peut occasionner, hein, il n'est pas du tout à genre remettre de ça de côté, mais il dit, ne vous alarmez pas.
Ok. Voilà. Alors moi, je me suis noté que, pour moi, le chrétien ne peut pas être surpris par ces bruits de guerre aujourd'hui, si c'est vraiment un lecteur assidu de la Bible, d'une part. Donc, il n'est pas naïf, il est informé, voilà. En même temps, je pense qu'un chrétien, sous prétexte d'être informé, ne devrait pas entretenir abusivement. Il faut savoir de quoi on se nourrit. Donc, entre l'autruche et se hyper-informer et à un moment donné se nourrir de cette atmosphère anxiogène, je pense que ça, ce n'est pas le plan de Dieu pour nous. Et je me suis noté également que le chrétien est invité à contribuer à la paix individuellement, faiseur de paix. ne serait-ce qu'à notre petite échelle dans notre vie de tous les jours. Bien sûr, ça résoudra pas. Non mais sérieux là.
Aujourd'hui, et c'est comme ça.
Casse-d pour Philippe, hein, qui travaille un petit peu son français là, voilà. Mais quand même, la Bible nous amène à un moment donné à, et toi, ta responsabilité individuelle, là où tu es, ce que tu es faiseur de paix, quoi.
Oui, il y a ça, et je pense qu'il y a d'autres choses aussi. C'est qu'un peu plus loin, alors je ne sais pas si j'ai le droit de le citer maintenant.
Ben non, parce que là, il y a bientôt un jingle, Anita.
Ah bon, mais...
Je pense que
mais...
c'est pour la suite, moi j'ai plein de trucs pour la suite aussi.
D'accord, plein de trucs pour la suite.
Mais pour moi, c'est comment non. devrait se positionner
Régis,
le chrétien,
s'il vous plaît.
Ça
Jingle. Bon, merci beaucoup pour la réactivité à la régie. Jingle, ça veut dire que maintenant... Jingle, ok. Ça veut dire qu'aujourd'hui, maintenant, il faut vraiment développer en quoi cette posture, cette position du croyant qu'on vient juste de placer, eh bien, elle a des arguments bibliques et on a aussi de quoi appliquer cette posture. Alors, vous avez dit que vous avez plein de choses. On y va. Benoît, toi qui fais un peu le kéké, là.
Allez, on y va. En fait, Jésus, quand il dit « vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre oui. », il parle de son retour. Donc, un chrétien, à entendre qu'il y a des guerres, des bruits de guerre, devrait garder quelque part dans sa tête « ah, est-ce que c'est quelque chose qui est en train de préfigurer le retour de Christ ?»
Ok, donc il y a une question de fin des temps, là, sans jouer un peu trop l'alarmiste, c'est-à-dire...
Alors, sachant que la fin des temps, à chaque conflit, tout le monde a toujours dit « ça y est, c'est la fin des temps
okay. ».
Mais ça peut inviter chacun à se repositionner dans sa relation à Dieu.
Ok. Mmh.
Il parle, effectivement, Jésus parle des douleurs de l'enfantement avant son retour.
J'ai noté ça aussi.
Voilà.
Hein.
Ah, je sais que j'ai un bon point là. Mais...
Ouais. Et...
Tu restes.
Voilà, je reste.
Tu restes encore une saison. Une émission, pardon.
Voilà. Et puis, il y a un peu plus loin, moi, ce qui m'a marqué, c'est l'endroit aussi où Jésus dit « Mais attention à vous-même, ouais. parce que l'amour de plusieurs va se refroidir. »
Ok.
Donc, ça veut dire qu'en tant que chrétien, la première chose que nous devons faire, c'est commencer à considérer notre propre cœur et notre propre relation à Jésus. Parce qu'on peut se faire avoir par effectivement un climat anxiogène qui, humainement parlant, peut se comprendre. Et Jésus dit, mais attention, veillez à votre amour, veillez à votre foi. Parce que c'est ça l'essentiel dans un premier temps. Et pour nous, et parce que c'est à partir de ça que nous pouvons apporter de l'aide aux autres aussi.
Je rebondis là-dessus. Okay. Jésus, dans ses messages, a souvent dit à ses disciples... Que la paix soit avec vous, restez en paix, soyez en paix, ne vous inquiétez pas. Et en fait, il y a un processus psychologique tout à fait normal, c'est qu'à partir du moment où on est dans la peur, eh ben on a des hormones pas cool, le cortisol, qui viennent nous inonder le cerveau et qui font qu'on est plus lucide sur ce qui se passe. Alors que si on reste dans la paix, eh ben ça nous permet de mieux appréhender le monde.
Eh bien, ça rejoint complètement ce que je m'étais noté. Partout dans la Bible, il y a des appels incessants. Un, à la paix intérieure, c'est l'inverse de se troubler. Okay. Et deux, à la paix extérieure, donc se réconcilier, être faiseur de paix. Et puis, qu'est-ce qui permet à un chrétien potentiellement d'appliquer ça? C'est juste la méthode Coué, ne te trouble pas, sois en paix.
Ah ben, je pense que ce que Benoît a dit, c'est entretenir notre relation avec Jésus.
On est d'accord.
C'est lui parler, c'est la prière, c'est la parole de Dieu, c'est le partage avec d'autres frères et sœurs. C'est toutes ces réalités que Jésus, sur lesquelles il a insisté et qui sont vraiment nécessaires encore plus en cas de crise en fait.
Ouais, et justement, on citait, parce que Matthieu 24:6, vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre, gardez-vous d'être troublés. Il faut que ces choses arrivent, ok. On retrouve ça également dans Marc 13, verset 7. Et on trouve aussi des bruits de guerre dans l'Apocalypse avec l'un des quatre cavaliers. Oui. Pour les non-initiés, c'est pas grave, mais c'est un cavalier rouge. Et en l'occurrence, c'est son cheval peut-être qui est rouge.
Oui,
ou c'est le cavalier,
ça.
C'est le cheval qui est rouge.
Le cheval roux.
Et là, tu fais la comparaison avec la Russie qui est rouge.
Ah,
c'est ça, là.
Oh là là,
t'es en train de faire
ça y est, je suis un prophète moi aussi, je vais peut-être rejoindre la prophétesse en chef.
Ça, qui est en rouge d'ailleurs.
Qui est en rouge d'ailleurs, effectivement, à ma gauche. Voilà, il y a un principe spirituel tout au long de la Bible, de toute façon. C'est que de toute façon, l'être humain ou l'humanité sans Dieu va au chaos. Au chaos individuel, au chaos entre les nations. Donc, il y a un dérèglement général. Donc, là, je suis pas en train de faire le déclinologue ou le collapsologue. Hein. C'est vraiment un principe biblique. C'est que l'être humain sans Dieu va au chaos.
Oui, voilà. Et c'est vrai que clairement, dans, que ce soit dans l'Apocalypse ou dans le livre d'Ézéchiel, etc., on voit bien qu'à la fin des temps, il va y avoir une accumulation de conflits, de famines.
C'est ce que tu voulais dire par douleur de l'enfantement tout à l'heure, c'est une expression biblique, hein, effectivement.
Mais c'est assez l'expression biblique.
Mais il y a une bonne nouvelle derrière cette expression, tu ne trouves pas ?
Mais tout à fait, ça veut dire qu'après Jésus revient. Donc on y revient, voilà, ce qui a déjà été dit.
Et là où le chrétien a une espérance dans une vie après la mort.
C'est pour ça que je pense, nous, en tant que chrétiens, on n'est pas encouragés, par exemple, à être, comment dire, des prophètes de malheur en disant « Ah, vous n'êtes pas chrétien, voilà, ça tombe bien, ben voilà, on a la monnaie de sa pièce. on est encouragés. » Je l'ai bien fait ? Non, pas aussi bien que toi.
C'était beau.
C'était pas mal. Non, mais on est appelés, effectivement, à adopter alors, non pas être naïf, mais avoir un message d'espérance. Complètement d'accord avec toi. Ouais. Mais non, en tout cas, ça ne serait pas biblique de se transformer en espèce de « Je vous l'ai bien dit ».
Oui, ah non, ça c'est pas du tout l'amour que Jésus attend de notre part.
On est complètement d'accord, voilà. Non, mais parce que parfois dans nos milieux, il peut y avoir des trucs pas cool.
Surtout qu'on va dire, je vous l'avais bien dit, sauf qu'en fait, on n'est pas mieux que les gens autour de nous.
Exactement, on n'est pas mieux.
Et puis, est-ce que tu as pensé aussi au fait que nous avons des armes en tant que chrétiens?
Incroyable, on est... Oh là là,
vous avez les mêmes notes, c'est fou.
Justement, j'étais en train de me dire, mais comment on fait concrètement? C'est quoi nos armes?
Eh ben, écoute,
sans jeu de mots, encore.
D'abord, j'irais c'est Paul. C'est Paul.
On n'a pas de la relation quand même avec Dieu. Voilà. Bon,
Paul qui dit dans Éphésiens que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, c'est-à-dire contre les humains. Ça rejoint un peu ce que nous sommes en train de dire, mais contre les dominations, les mauvais esprits. Il y a des forces des ténèbres, des forces sataniques qui existent réellement, le monde spirituel, qui essayent de faire la bagarre. Et ça a des répercussions sur notre terre. Et en fait, ben, la prière notamment. C'est la lecture de la parole qui vient nous donner aussi à la fois inspiration, révélation, encouragement, exhortation, enfin tout ce qu'on veut. Et la prière, je pense que le chrétien ne s'imagine pas quelle est la puissance de la prière. Et il peut prier pour les autorités, il peut prier pour les nations, il peut prier pour les peuples.
Ok, donc en gros, le chrétien est quand même amené à potentiellement, même si il y a une issue quasiment inéluctable, mais quand même continuer à s'investir, notamment par la prière, pour le monde qui nous entoure.
On peut toujours demander, même s'il doit y avoir des guerres, on peut toujours demander à ce qu'elles soient minimisées, à ce qu'il y ait moins de souffrance, etc.
J'apporte une petite nuance. Enfin, non, une précision, parce que on pourrait rapidement faire le raccourci de dire, nous, on est dans le camp des gentils, et puis celui qui est en face, c'est le camp des méchants, et du coup, c'est le camp des puissances, des dominations, de tous ces gens-là, et de diaboliser un ennemi potentiel, sachant que l'ennemi, Satan, aura cette volonté de semer la discorde.
Okay. Oui.
Donc, ça veut dire qu'il utilisera dans les différents camps des arguments pour pouvoir monter les gens les uns contre les autres. Mais ça ne veut pas dire que dans un camp, il y a le mal absolu.
Oui, là, quand je parlais de force diabolique, c'était bien dans les lieux célestes. Ouais. Tu as raison, ils viennent jouer sur nous tous.
Ils se complètent bien. Moi, je m'étais noté que le croyant, par rapport à cette paix à laquelle il est appelé, ne vous troublez pas, eh bien, il a la foi comme quoi Dieu est finalement au contrôle. Voilà, même si des fois ça peut paraître bizarre. Deux, il a des perspectives extraterrestres. Alors quand je me suis écrit ça, je me dis mais extraterrestre, c'est-à-dire qu'il dépasse notre passage sur Terre tel qu'on le connaît. Et bien sûr, le Saint-Esprit en nous. Ça, c'est une promesse qui s'est accomplie au moment où Jésus, pour les croyants, hein, bien sûr. Hein, il a quitté son enveloppe charnelle. Il a dit, c'est avantageux pour vous que je parte parce que je vais être, entre guillemets, remplacé à l'intérieur de vous par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, bien sûr, c'est lui qui contribue à cette paix surnaturel, donc on n'est pas mieux que les autres.
Ce qui veut, justement, on n'est pas mieux que les autres, et ça signifie pas non plus que le jour où on aura des missiles qui tomberont partout autour de nous, on sera là. Non, je suis en paix, ne vous inquiétez pas. Non,
génial.
On sera mal, mais il y aura une petite partie.
On est touché émotionnellement.
Voilà, on sera touché,
moi, ça me fait flipper ce sujet.
Mais
je l'ai
dit. Il y aura quand même, j'espère, un petit quelque chose, une petite flamme qui dit.
Une paix surnaturelle, je pense.
L'Esprit est avec toi, Dieu est là.
Ok.
Mais quand on voit les témoins qui nous ont précédés, que ce soit ceux décrits dans la Bible, par exemple quand je pense à Étienne qui est mort lapidé et qui pourtant semblait illuminé, enfin lumineux à ce moment-là, quand on voit les témoins qui ont assisté à des guerres précédentes et leurs témoignages, enfin oui, on peut dire qu'à la fois humainement parlant, on peut vraiment flipper. Et pourtant, il y a l'aide surnaturelle de Dieu. Et voilà. Et ça, j'allais dire, ça vient du Seigneur, quoi.
Ok. J'aurais envie que notre audience nous quitte. Enfin, nous quitte.
Ne quitte pas.
Mais restez, mais on dit, ok, si demain, un croyant est interpellé par nos croyants. Et au fait, toi, en tant que croyant, comment tu réagis par rapport à cette atmosphère? Est-ce qu'on aurait un petit script, une espèce de petit témoignage, un flash? Moi, je me suis noté quelques phrases qu'on pourrait dire, qui pourraient inspirer notre audience. Non, pas vraiment, Anita?
Moi, je me suis dit...
Si on résume un peu tout ce qu'on a dit.
Ce qui revient dans ce genre de questions, souvent, c'est « Mais pourquoi Dieu permet-il ça ?»
Ah.
Okay. Donc, je pense que c'est la question du mal. Et donc, on en vient au basique, c'est-à-dire parler du plan de Dieu par rapport à l'être humain, la séparation de l'homme avec Dieu. Et voilà, et l'être humain a une responsabilité par rapport à ce qui se passe sur Terre, quand même. Hein. Bon. Donc, je pense qu'il y a une partie comme ça. Alors, ce n'est pas dans le sens accusatoire, mais de répéter ce que dit la Bible.
Chacun sa responsabilité.
Voilà, hein. C'est ça. Et que ce n'est peut-être pas Dieu qui est coupable. Il faut peut-être déjà regarder chacun dans notre cœur. Quoi.
Ok, très bien. Benoît ?
Moi, je parlerai de mon témoignage et en fait de la sérénité que je peux avoir en m'approchant de Dieu, que ce soit dans la prière ou autre.
Et donc ça, c'est quelque chose que tu vis ?
Oui, oui, okay. Complètement. Ah, non, mais il y a des moments où c'est un cataclysme autour de toi, mais en fait, ouais. Tu es sereinement en panique.
Okay.
Oui.
Voilà.
Et t'as pas l'impression que c'est une faculté qui t'est forcément propre ? C'est quelque chose qui c'est un peu un cadeau, une grâce, c'est ça ? C'est lié à la relation avec Dieu.
Alors là, je n'en sais rien. On pourrait comparer avec d'autres chrétiens, non. Je ne sais pas.
La paix surnaturelle qui
oui,
est donnée par Dieu.
Pour moi,
quoi.
C'est exactement ça.
Okay. D'accord.
On peut à la fois être dans la tristesse ou dans la crainte, et pourtant être en paix, c'est vrai.
Ah, ouais, ouais. Ça, c'est peut-être la punchline de l'émission. Hein. Il y a une réalité émotionnelle qui nous concerne tous et toutes. Okay. Et à un moment donné, on peut expérimenter une paix surnaturelle à laquelle Jésus nous appelle. Et en général, il ne nous demande pas d'être en paix s'il ne nous donne pas les moyens de l'être à côté.
Tout à fait.
Voilà. Mmh. Alors du coup, pour terminer, A, B ou C.
Alors répète.
Par rapport aux options. Non, mais je vais les répéter pour tout le monde. A, malgré la brillante rubrique Fait et Contexte, bon, tout ça, c'est un peu de l'esbrouf, ça va redescendre, arrêter d'affoler les gens avec vos émissions, là. B, oui, c'est flippant, mais je vois pas du tout en quoi il pourrait y avoir une différence entre un croyant et un non-croyant. Et C, c'est flippant, mais le croyant devrait ou a des réflexes ou des postures ou des ressources que d'autres n'ont pas. A, B ou C, votre audience, du coup, ici, peut se manifester. Et nous, alors, du coup, moi, j'ai dit C, hein, clairement, hein, depuis le début. Hein.
Voilà. Moi, je ferai un conglomérat des trois.
Mais non, mais c'est quoi
dans
cette réponse
nuances.
Un conglomérat des trois, mais... Oh, mais ils vont jamais s'en sortir, là.
Mais non, mais par contre, vous, il faut mettre la bonne valeur.
Un conglomérat des trois. Bon,
alors,
Anita...
puisque je ne peux pas choisir le D, je vais choisir le C.
Le C. Oui, non, parce que le D, c'est... Okay,
ça
d'accord.
Serait... peut-être pas, mais en tout cas, je suis confiante en Dieu.
Oui, je suis d'accord avec toi.
Bon, allez, voilà. Alors, on va se quitter là-dessus. Vous avez noté que l'heure, peut-être, est potentiellement grave. Et en revanche, ici, nous restons alertes et au plaisir de vous accompagner pour une prochaine thématique.
Et allez, n'oubliez pas, likez et abonnez-vous.
Allez,
ciao.
À plus.